France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
50 expositions à voir pour la 50e édition des Rencontres d'Arles, c'est jusqu'au 22 septembre. Parmi elles, nous en avons choisi deux qui nous parlent aussi de la planète en photo, phénomène avec un S et data zone. Il y a 5 ans, notre première invitée, Marina Gadonet, s'est lancée dans un drôle de projet, documenter des lieux de recherche scientifiques où sont reconstitués des phénomènes naturels, météorologiques ou astrologiques, astrophysiques. Trou noir, sol de la planète Mars, éclair, aurore boréale. Cette exposition est présentée à Arles, cette série s'appelle Phénomène et elle est donc à voir à la Mécanique Générale. Bonjour Marina Gadonet.
Bonjour.
À vos côtés, mener à son terme son projet DataZone lui aura pris 15 ans de sa vie. Il a capté les signes les plus tangibles de la catastrophe annoncée, écologique, industrielle, mais aussi politique. De la Corée au Nigeria, le photographe Philippe Chancel expose en ce moment son récit en 14 chapitres à l'église des Frères Prêcheurs d'Arles. Donc, bonjour Philippe Chancel.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Marina Gadonet, commençons juste avec vous et avec vos sacrés phénomènes. Vous avez photographié des trous noirs, des décors, celui de Mars par exemple, des étoiles filantes, des impacts de météorites. Pas si simple d'avoir accès à ce qui nous reste a priori inaccessible et notamment à l'œil nu. Ça c'est la magie de la photo, être capable d'opérer, réaliser ce tour de magie.
Alors effectivement oui, bon, tout d'abord c'est je ne m'intéressais pas aux phénomènes naturels réels, mais aux phénomènes naturels extraordinaire, imprévisible et reproduit en laboratoire. Donc effectivement, ça a été un long travail de recherche, de documentation, qu'elle soit littéraire, iconographique, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réaliser une liste de vocabulaire, justement, aurore boréale, éclair, trou noir. J'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse de l'Institut français qui m'a permis de partir 2 mois aux États-Unis. Et donc de réaliser ce projet.
Vous êtes allé au siège de la NASA notamment.
Oui.
Aussi.
Voilà, ce qui m'intéressait aussi, c'était la différence entre plusieurs échelles, de la petite échelle et d'un petit laboratoire jusqu'au plus gros laboratoire, et des objets de vulgarisation, par exemple, autour des aurores boréales. Finalement, on connaît très bien le mécanisme à la grande échelle de la NASA, où on est encore dans des recherches très actuelles.
Ils sont sympas, la NASA, ils partagent facilement leurs secrets, leurs savoirs.
Alors les scientifiques ont été fantastiques. C'est vrai que ça a été très long de prendre des rendez-vous. C'était un gros travail d'investigation, de demande d'autorisation. Mais finalement, j'ai partout été extrêmement bien accueillie. Les portes se sont ouvertes.
Ouais. Non, parce que c'est vrai que c'est pas évident au premier abord de se rendre dans un laboratoire. Tout semble plutôt aride du côté de cet univers des scientifiques, comme un territoire qui, si on n'en possède pas la langue et les codes, nous est peu autorisé. Et c'est ça qui est très très réussi dans ce projet que vous avez mené, c'est que vous avez plutôt travaillé sur les représentations. Vous êtes parvenu à partir de ces expériences réelles, scientifiques, à les transformer dans un sens presque métaphorique.
Oui, je voulais vraiment que cette exposition et ce livre aussi que j'ai réalisé en parallèle avec les éditions RVB à partir d'un prix remporté l'année dernière, le Demi Award de la Fondation Luma et des Rencontres d'Arles. J'avais vraiment envie que ce soit un voyage, une forme d'exploration à travers le merveilleux, entre le merveilleux et la catastrophe. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrivais dans un laboratoire, ce qui m'intéressait n'était pas tant une description très documentaire du laboratoire, mais plutôt d'axer mon œil sur le phénomène reproduit en soi, et de du coup observer uniquement le phénomène de manière à ce qu'il soit en quelque sorte complètement énigmatique, et qu'on puisse aussi se perdre dans ce voyage à travers les éléments naturels reproduits. Et autre chose de fascinant, c'est que c'est vrai que dans les laboratoires scientifiques, il y a beaucoup de bricolage finalement. Et vous me posiez la question du rapport aux chercheurs, et c'était fascinant parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec chacun des chercheurs. Enfin, je dis « on » parce que j'ai travaillé avec une assistante sur tout le projet, notamment aux États-Unis. Et on a observé une analogie extrêmement intéressante entre le laboratoire du chercheur et le laboratoire de l'artiste, en fait. Où on cherche, où on... parfois l'erreur est finalement le résultat. Et la question de l'erreur est aussi importante dans ce travail, car elle amène parfois des résultats positifs auxquels on ne s'attend pas.
Philippe Chancel, votre projet à vous, DataZone, comment a-t-il commencé ?
Il a commencé il y a une quinzaine d'années, alors que je gardais dans un petit coin de ma tête qu'un jour ou l'autre, je pourrais me rendre en Corée du Nord. Et je me suis rendu en Corée du Nord en 2005. Et ça a été en fait le début d'une histoire que je ne connaissais pas encore dans ses tenants et ses aboutissants, mais qui s'est mise en place au fur et à mesure. D'abord avec la Corée du Nord, mais surtout après avec les Émirats Arabes Unis. Je faisais en fait le grand écart entre la Corée du Nord, dernière idéologie communiste, le dernier Disneyland stalinien, et puis les Émirats qui ont suivi après, où en fait finalement, après avoir lu Mike Davis et le stade Dubaï du capitalisme, je me suis évidemment intéressé aux expressions effectivement de ce que je peux appeler aujourd'hui et ce qu'on peut appeler l'idéologie de l'argent.
Des zones de tension aussi. Mais alors, si vous êtes sur cette idéologie de l'argent, ça c'était le point de départ, pourquoi vous a-t-il paru indispensable d'y ajouter un dernier chapitre après près de 15 ans, hein, une dizaine d'années à parcourir le monde en passant par la Corée, vous l'évoquiez, mais aussi le Japon, de Fukushima, les territoires palestiniens où vous vous êtes rendu, l'Antarctique, vous avez réalisé une magnifique série. Pourquoi avoir choisi de terminer par les quartier nord de Marseille. C'était la pièce manquante.
C'était la pièce manquante, effectivement. Puis c'est heureux qu'il communique, ça fait un beau voyage.
Il fallait
revenir au port et il fallait voir aussi la France en face. Et évidemment, pour moi, j'ai pas eu à hésiter. C'était Marseille, évidemment. Ouais.
Même si vous n'êtes pas marseillais, vous
même si je suis pas marseillais, mais l'une des caractéristiques d'un photographe documentaire, c'est de pouvoir justement épouser une cause et en fait investir un sujet, un projet vraiment à bras le corps.
Vous avez le sentiment, comme Marina Gadonex, de faire la jonction, vous aussi, entre le réel et la fiction à travers vos photographies.
Oui, tout à fait, mais disons. On n'emprunte pas les mêmes voies, on n'est pas sur les mêmes terrains, mais finalement, la métaphore de Marina et en ce qui me concerne, finalement, ça parle au niveau d'une photographie dite documentaire, ça parle au niveau d'un style documentaire cher à Walker Evans, qui disait que, en fait, le style documentaire, c'est à la fois une approche, une photographie, un prélèvement du réel. Mais c'est aussi un propos, c'est aussi un fond, c'est aussi une démonstration. C'est l'idée qu'on veut raconter quelque chose et dire quelque chose sur l'époque.
Marina Gadonex, vous avez réalisé, et elles sont présentées dans l'exposition, c'est même un triptyque, des photos de trous noirs.
Ah oui.
Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que très récemment, on a vu apparaître la première image de trous noirs jamais réalisée. C'était une prouesse technologique qui a mis très en avant l'une des chercheuses de l'équipe qui est parvenue à cette découverte, c'est Katie Boumann.
Voir ces images pour la première fois fut extraordinaire et l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ce test a été incroyablement significatif. Même si chaque image est légèrement différente, nous avons trouvé la même structure d'anneaux symétriques, quelle que soit la méthode ou la personne mobilisée pour reconstruire les données. Cette image a vraiment capturé l'imagination d'une génération de jeunes et nouveaux scientifiques.
Elle vous a un peu volé la vedette, en fait, Katie Boumann. La première photo de trou noir, c'est vous qui l'avez réalisée, non?
En fait, non, pas vraiment, d'ailleurs, parce que j'ai travaillé avec le laboratoire LIGO à Pasadena, Caltech. Et en fin de compte, eux n'avaient pas besoin d'images. C'est ce qui est très intéressant, d'ailleurs. Et en l'occurrence, eux travaillaient sur la collision de trous noirs. Et ils ont réussi à vérifier une hypothèse qu'avait déjà émis Einstein sans en être sûr. Et notamment, je crois, sur la question de la distorsion de l'espace-temps, etc. Donc à l'époque, finalement, ils avaient besoin de supercalculateurs un peu partout dans le monde, mais les données pour le résultat de leur recherche étaient finalement très écrites, technologiques, et les images que j'ai réalisées, ils me les ont projetées, finalement. Parce qu'ils faisaient image après, il y a toute une équipe qui s'occupe de faire image à partir des données, technologiques. Et ce qui était très amusant, c'est qu'ils appelaient ça des images d'artistes. Mais finalement, c'est une image recomposée, j'imagine, qu'ils utilisent pour la communication, etc. Mais effectivement, c'était très drôle parce que quand j'ai découvert cette première image du trou noir, c'était après.
Très différente des vôtres ou pas ?
Très différente, oui. Parce que les miennes, finalement, sont assez simples. Et puis, c'est eux qui les ont construites comme des images d'artistes, comme ils disent. Et voilà, c'était en plus très amusant parce que quand je les ai rencontrés, ils attendaient, ils étaient impatients d'être nobelisés. Ils espéraient être nobelisés et ils ont été effectivement, ils ont reçu le prix Nobel effectivement l'année suivante.
Alors maintenant, vous avez vraiment chopé le virus de tous ces phénomènes. C'est-à-dire que quand vous avez vu cette photo apparaître, cette vraie photo, vraie trou noir, c'est quelque chose qui vous émeut.
Complètement. C'est vrai que moi j'ai travaillé, comme ben, Philippe a travaillé pendant 14 ans sur son projet, je pense que j'aurais pu faire pareil. Parce que c'est fascinant, chaque lieu amène à une autre idée, à un autre endroit. Donc ça prendra forme certainement dans une continuité sous une autre forme, on verra bien.
Il y a un passage de relais pour vous aussi, comme l'évoque Marina, Philippe Chancel, d'une situation à l'autre.
Oui, bien entendu, oui. Bien entendu, le travail s'est effectué un peu progressivement. C'était vraiment un work in progress. J'aime bien avoir un peu des balises comme ça, des repères. Et en fait, je me suis un peu emparé d'abord de William Burroughs parce que déjà par rapport à un titre d'ouvrage, puisque le festin nu au départ, c'est d'abord appelé Interzone. Je suis passé d'Interzone à Datazone et puis l'idée de William Burroughs, c'est aussi l'écriture fragmentaire, c'est le cut-up. Et Datazone, en fait, est une sorte de cut-up du monde. J'essaye, comme ça, aux quatre coins de la planète, de faire ce que j'appelle des prélèvements du réel, pour qui me paraissent un peu emblématiques, effectivement, des zones de tension, les effets toxique de la mondialisation, de tout.
Vous avez presque placé vos caméras de vidéosurveillance partout autour de la planète, en fait.
Oui, c'est mes data, effectivement. Alors, les data, c'est la nouvelle denrée du 21e siècle. Donc les data sont partout. Alors, quand j'ai commencé à dire, j'entame un projet qui s'appelle Datazone, dans les années 2006, 2007, 2008, on regardait avec des gros yeux, parce que data, c'était pas encore véritablement
pas le gros mot.
C'est pas le gros mot d'aujourd'hui. Mmh. Voilà, tout
avec
à fait.
Big data.
Le big data est arrivé un peu plus tard. Bon, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que je collecte des informations pour finalement me donner l'impulsion et l'intuition d'aller sur zone, vérifier ou pas si ces hypothèses de travail sont avérées. Voilà. Et en général, je vais dans des... Parce que ça fait partie un peu de ma mécanique générale. Mécanique générale, c'est là où expose Maria.
C'est là où expose Maria.
Les lieux interdits ou difficiles d'accès me donnent, une fois que j'y suis, une fois que j'ai réussi à les pénétrer d'une certaine manière, à les investir, me donnent en fait des espaces de liberté photographique pour développer mon corpus. Voilà.
Et quelle photographie globale ça nous donne à vos yeux de la planète aujourd'hui dans toutes ses composantes? Parce qu'il faut raconter qu'à Arles, sur le lieu de l'exposition, sur le sol, vous avez fait aussi une sorte de tracé cartographique avec les latitudes des lieux visités, des pays où vous êtes rendu, qui nous envoie aux quatre coins de l'exposition.
Voilà, d'ailleurs ce dispositif a été mis en place avec la collaboration et surtout aussi la vision d'un scénographe, muséographe qui est Adrien Carter. C'est une constellation terrestre qui est inscrite comme ça au sol de l'église des frères prêcheurs. Et puis en même temps, c'est quelqu'un me faisait la remarque que c'est un peu aussi l'idée du mouvement brownien, c'est-à-dire c'est toute cette activité en fait de la planète comme ça qui se met en action et peut-être même en hyperaction et qui peut provoquer, si on y prend garde, bientôt des dégâts relativement importants, voire irrémédiables.
Vous concluez d'ailleurs l'exposition par un épilogue où à la fois très fin et en même temps où vous ne mâchez pas vos mots par rapport au constat que vous faites après 15 ans de voyage à travers le monde. On sent aussi que vos espoirs, vos utopies en ont pris quand même un coup.
Un peu dans la figure.
Ouais, vous écrivez: l'écosystème général de la planète déraille. J'entends les Cassandres tirer la sonnette d'alarme. En vain, je suis allé dans les endroits sensibles, fixer des images, manière pour moi de témoigner que je vis, hélas, dans ce monde-là et de lutter contre le romantisme noir qui, trop souvent, montait en moi. L'art comme seul échappatoire au désastre. Il y a un point d'interrogation. Vous y croyez encore à cela?
Oui, j'y crois parce qu'en fait, j'y crois, mais parce que j'ai besoin d'y croire pour le voir, d'une certaine façon. Pour moi, l'esthétisation de mes images, c'est une sorte de défense en définitive. C'est-à-dire que la brutalité est tellement, parfois la violence est tellement forte sur certains terrains d'investigation. Par exemple, j'ai en mémoire le delta du Niger, qui est quand même un enfer sur terre. Et si j'avais pas eu cet échappatoire comme ça de voir dans ce désastre ravageur une certaine beauté à tout ça, je pense que je n'en serais pas sorti, quoi, d'une certaine manière. Donc c'est une manière aussi de faire une approche en douceur. Et de donner à voir de façon plus légère, finalement, des choses assez dramatiques.
Parce qu'il y a effectivement quelque chose de très beau dans vos photos. Quand on voit cette main soulever cette nappe de pétrole, cette main noire soulever cet or noir qui s'est écoulé absolument partout dans les eaux et les sols du delta. Mais aussi quand vous vous rendez par exemple en Afghanistan et que vous faites cette photographie du ministère de la Culture, on pourrait même pas l'inventer, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant un panneau avec marqué ministère de la Culture et l'entrée est complètement bétonnée et devant un homme prostré d'or, en fait, sur la gauche de l'image.
Oui, c'est exactement dans la sémiotique et la sémantique, le moment même où je vis cette réalité qui d'un seul coup, apparaît devant moi comme une installation trouvée que j'aurais pas pu inventer. Ça, c'est extraordinaire. Ça, ce sont les cadeaux que parfois les photographes qui arpentent le terrain, permettent de se dire que quelque part, il y a parfois des petites récompenses à voir dans ce style. Oui.
Marina, on en revient à vous et en musique, si vous le voulez bien, avec quelques notes de Life on Mars, chantées par Céo Jorge.
Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem. Da sua língua, então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
Chez vous aussi, Marina Gadonex, la catastrophe est au cœur de nos sociétés. On peut penser aux tornades, aux raz-de-marée, à tout ce qui peut nous emporter. Mais il y a aussi le mystère de cet ailleurs qu'on ne connaît pas, qui n'est peut-être pas meilleur, mais qui en tout cas continue à inspirer et ouvrir les imaginaires. On peut peut-être raconter cette photo du sol de Mars, du décor du sol martien qui a été réalisé. Et comment ça s'est passé?
Alors, j'ai photographié déjà plusieurs sols martiens.
Il y a une personne qui peut dire ça aujourd'hui.
Enfin, des faux sols martiens, on va dire. Mais celle qui est prévue, il y en a deux qui sont présentes dans l'expo. Une au CNES, réalisée au Centre National d'Études Spatiales. Mais je pense que celle dont on a envie de parler, c'est celle que j'ai réalisée à Stevenage en Angleterre. Donc, c'était en 2016. Et c'était un lieu incroyable, un laboratoire dans lequel ils avaient mis 300 tonnes de sable, peint tous les murs de la couleur, on pourrait dire moyenne de Mars, à peu près, parce que j'imagine que Mars a plusieurs couleurs aussi, et pour entraîner les rovers, enfin les robots qui étaient amenés à partir en 2018. Mais ce qui est très intéressant avec cette image, et finalement c'est presque la plus documentaire, parce que un peu comme ce que disait Philippe, moi je pars toujours du réel et aussi forcément du document, de ce qui existe, pour m'en échapper après en image, la forme est complètement différente. Mais là, ce qui est intéressant dans l'histoire de cette image, c'est que une fois la mission terminée, donc je pense qu'ils sont partis en 2018, ils avaient déjà prévu en amont d'aménager le plafond pour pouvoir louer l'espace à des films de science-fiction.
Ça va devenir décors de cinéma.
Voilà, donc maintenant ça devient décors de cinéma, alors que c'était vraiment un vrai laboratoire de recherche. Moi, quand j'y étais, c'était l'Agence spatiale européenne qui travaillait. Je crois que ça appartient à Airbus, le lieu. Et je ne pouvais toucher aucun caillou. Enfin, tout était contrôlé pour les mesures des robots. Mais j'aime bien cette histoire et ce rapport entre la fiction, enfin, entre la science et la fiction, finalement, au sein même de cette image.
Parce que la science contribue à, est elle aussi, comme le cinéma, une sorte de fabrique des fantasmes et des imaginaires pour vous? Elle fabrique des représentations.
Elle fabrique des représentations. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la fabrication des images et du coup, à la fabrication des représentations. Et le laboratoire est un laboratoire de, finalement, où on rejoue les choses, on rejoue les éléments, on conceptualise, etc. Et on arrive, on fait image, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup depuis longtemps.
Et dans cette fabrique des images, vous vous autorisez à retoucher les vôtres, où il y a un souci de fidélité par rapport à ce réel réinventé par la science?
Je m'autorise à m'écarter, enfin, même si je perds du réel, à m'écarter de la représentation fidèle du laboratoire pour m'axer sur un endroit, un phénomène, parfois complètement en disjonction avec la légende. Mais en revanche, non, je retouche parfois quelques petits détails qui me dérangent, mais très peu finalement.
Philippe Chancel.
Oui, bah, sur la question de la retouche de l'image, ça c'est une question d'éthique presque en ce qui me concerne. Et souvent on me demande, mais cette photo-là, c'est, vous l'avez retouchée? Je dis non. Non, je ne retouche pas mes photos. Il suffit parfois de, voilà, d'attraper, de capturer le réel dans sa folie pour que ça suffise d'une certaine façon.
Je fais une parenthèse, on peut donner un exemple. Cette autoroute en Arabie Saoudite.
Oui, dans les Émirats.
Absolument fantastique, comme on rêverait d'en avoir ici partout, un bitume flambant neuf. Et sur elle arrive une avancée de désert, rattrapée.
Pour le coup, ça pourrait être une photo de Marina. Parce que tellement elle est clinique, tellement elle est parfaite dans ses éléments.
Elle n'est pas clinique,
non, elle n'est pas clinique. Bon, alors, on va ouvrir un débat.
Vite, vite.
Enfin, la précision, en tout cas, est là. Et c'est vrai que là, encore une fois, la réalité vaut toutes les fictions.
Vous passez à autre chose maintenant, Philippe Chancel?
Oui, je vais passer à autre chose. Voilà, mais pour l'instant, je reste un peu sur DataZone.
Il faut porter ce projet, qui en dit long. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans ces matins d'été de France Culture. Je rappelle que vos deux expositions sont à voir en ce moment à Arles jusqu'au 22 septembre dans le cadre de cette 50e anniversaire jubilée